And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du 12e homme. On est de retour de vacances. Au programme du jour, beaucoup de Ligue 1, la 23e et 24e journée de Ligue 1. On parlera ensuite du match fou entre Paris et Lille. Et on parlera ensuite de l'Olympique de Marseille. Le point monde aujourd'hui sera européen. On va voyager avec nos clubs français à travers l'Europe. Tout d'abord, quelques résultats marquants de la 23e journée de Ligue 1. Toulouse confirme sa bonne forme et bat Rennes 3 buts à 1. Montpellier bat Brest 3 à 0 et se relance dans la course pour le maintien. Reims bat 3 4 à 0. Lyon s'impose à domicile face à Lens 2 buts à 1. Et les Parisiens sont défaits sur le Rocher, défaite 3 buts à 1 contre Monaco. Pour les résultats de la 24e journée, Auxerre bat Lyon 2 à 1. Les Lyonnais retombent dans leur travers. Le PSG bat Lille 4 buts à 3 au terme d'un match renversant. Lens retrouve quelques couleurs en battant Nantes 3 buts à 1. Lorient, à l'image de Lens, se relance aussi 3 buts à 0. Et Marseille bat Toulouse au terme d'un match patron face à une belle équipe de Toulouse tout de même. Un petit point classement maintenant. Le PSG toujours premier avec 57 points. Marseille suit avec 5 points derrière. Monaco et Lens sont toujours à la lutte pour le podium. Juste un peu derrière, une lutte pour les places européennes entre Rennes 5e, Lille, Lorient et Nice qui se tiennent en 5 points. Du côté du maintien, on a toujours un match à 6 entre Angers 20e, Ajaccio 19e, Auxerre 18e, 3 17e, Brest 16e et Strasbourg 15e, même si Angers est vraiment au fond du seau, alors que les 5 autres équipes se tiennent en 3 petits points. Donc, après un bref résumé statistique, place à la parole.
Pedretti a tout commandé sur le terrain, mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper.
Ah oui, à quoi vous faites allusion ?
On va s'en occuper.
Et on commence avec Jean, qui voulait nous parler du match entre Paris et Lille, un match renversant. Paris qui bat Lille à la toute dernière minute. Est-ce que pour toi, c'est une victoire méritée pour le Paris Saint-Germain ?
Je sais pas trop, c'est un match indécent qui représente bien la situation dans laquelle est le PSG en ce moment. Car juste avant de commencer ce match, le PSG était sur 3 défaites consécutives de toutes compétitions confondues, une des pires séries du club depuis l'ère Qatari. Pourtant, les Parisiens commencent bien ce match, malgré une frappe de Diallo, joueur lillois, arrêté par le gardien dès les premières secondes. Paris entame bien son match, notamment avec un bon Fabien Ruiz, j'ai trouvé. Puis une entame qui s'est concrétisée par un but venu d'ailleurs de Mbappé. Puis son acolyte brésilien Neymar marque ensuite à la suite d'une belle contre-attaque très bien menée. 2-0 à la 17e minute. Bon, pour toute équipe de la taille du PSG, ça aurait été une belle après-midi. Enfin voilà, une belle après-midi tranquille. Une équipe sûre de ses forces qui va gagner tranquillement. Sauf que l'on parle du PSG, le club le plus divertissant, car après 17 minutes, patatras, il ne se passe plus rien. Le premier point de discorde, c'est la défense. La charnière Ramos-Kimpembe a été énormément mise en difficulté, notamment le français qui par deux fois se fait devancer par Jonathan David. Heureusement, Donnarumma fait une très grande parade. Et sur les deux autres buts lillois, c'était un peu le même problème. Les défenseurs sont trop loin sur le corner. J'ai oublié le buteur.
Diakité.
Bon, merci. C'est Diakité qui. Ils sont trop loin des défenseurs qui marquent trop facilement. André Gomes, milieu de terrain, on en avait parlé à la dernière émission. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il a joué dans un fauteuil. Les joueurs étaient beaucoup trop loin. Et même sur le troisième but, c'est une belle frappe, c'est une belle passe d'André Gomes en profondeur parce qu'il est tout seul. Et le deuxième problème aussi, après 17 minutes de jeu, les deux blessures. Neymar à la cheville, même si je pense que ça peut aussi libérer certains joueurs de l'autre parisien. Mais l'autre un peu plus important aussi, c'est Nuno Mendes. Important contre le Bayern, son absence peut peser lourd. Je trouve important avec Neymar aussi sur le côté. Donc là, ça se complique. 3-2. On se dit, c'est pas possible, après un pénalty quand même assez litigieux. Et là, l'ambiance est assez surprenante. On sent une tension folle sur le banc, avec un Luis Campos complètement déchaîné. Je trouve ça un peu lamentable. Complètement déchaîné contre l'arbitrage. Puis un Christophe Galtier qui allait tomber sur place. Je pense qu'il est tombé sur place de stress. Et des supporters qui, je pensais qu'ils allaient beaucoup siffler ou être énervés. Non, ils ont quand même encouragé leur équipe jusqu'à la fin. Et donc... Là aussi, le PSG n'est pas un club comme les autres, car ils ont des joueurs qui ne sont pas comme les autres. Mbappé, qui reprend avec une détermination, qui est toujours sur sa Coupe du Monde, qui amène une détermination, une volonté quand même, une grosse vitesse qui casse tout. On l'a vu contre le Bayern, mais on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais qui amène une détermination et qui prend le but égalisateur. Puis... À la 94e minute, alors qu'on pensait qu'on allait sur un match nul, on a eu le retour de Messi, qu'on avait oublié. On l'avait oublié sur le match, tellement il a été fantomatique tout le match. Mais bon, ça, c'est le point fort de Messi, d'être transparent, puis d'un coup, venir et marquer ce coup franc magique poteau rentrant sur Chevalier. Puis aussi, à noter l'erreur de Benjamin André, qui pourtant je l'aime beaucoup au milieu de terrain lillois, mais qui là, sur les deux buts et un peu fautif, il fait une faute très bête sur Messi qui amène ce coup franc plein axe et voilà, donc un match indécent pour une équipe indécente, et voilà, peut-être un renouveau pour le PSG, je suis pas sûr.
Ouais, mais c'est d'avoir des grands joueurs, ça te fait gagner des matchs même comme ça. Et toi, Thomas, ça t'a amusé un peu ce match PSG-Lille?
Ça m'a pas trop amusé, j'étais dégoûté à la fin du match en fait. En tout cas, le match, je l'avais coché. Je voulais pas rater ce match parce que je savais que il allait se passer un truc, je sais pas. Je sentais le match un peu fou. D'ailleurs, c'était pas un match, c'était un film. Hein. Pour moi, c'était plutôt un film dramatique parce que on a vu en fait le PSG, comme tu l'as dit, dans toute sa splendeur en fait, une équipe. Je sais pas, une équipe bizarre. J'ai pas mot pour décrire l'équipe. Ils font un début de match vraiment horrible, hein, comme il a dit. Lille, il pourrait gagner 2-0 au début de match sur la tête de Kimpembe en retrait de Donnarumma, où David il la récupère, et sur la première action. C'était assez fou. Lille a fait un super match quand même. Faut quand même mettre en avant le match de Lille, parce qu'au milieu de terrain, ils ont mangé Paris. Verratti, à part faire les tacles par terre, je sais pas à quoi il sert. André Gomes... dans un fauteuil magnifique. Neymar qui se blesse pour la je sais pas combienième fois, bah c'est bien, au moins il va pouvoir aller jouer au poker et manger au McDo tranquillement, personne va l'embêter. Il va rater le Bayern, je pense que c'est d'ailleurs une très très bonne nouvelle, enfin j'espère qu'il va rater le Bayern pour les supporters du PSG, parce qu'il apporte rien dans le jeu, mais comme tu l'as dit, Nuno Mendes est blessé, et ça c'est plus important parce que à mon avis ça va être un très gros manque contre le Bayern. Messi, qui sauve Galtier, parce que Galtier, s'il perdait ce match, je pense qu'il sautait directement. Soit il sautait là, soit il sautait après le Bayern. Quoi qu'il arrive, il sera pas l'année prochaine.
Ouais,
donc, il va sauter, à mon avis, vu qu'ils vont pas gagner contre le Bayern, à mon avis, on verra ça tout à l'heure. Il va sauter direct. Et puis, on a eu le show Campos, hein, qui gueulait sur les arbitres comme un fou. Je trouve ça tellement inadmissible. Les arbitres, je comprends pas comment ils lui ont pas mis un carton rouge. Déjà, il a pas le droit d'être là, hein, faut le savoir. Il n'a pas d'accréditation pour être là. Donc ça, c'est tout simplement honteux. Donc voilà, en gros, un match du PSG, comme on les aime ou comme on les aime pas, mais un match du PSG en tout cas.
Voilà, donc le PSG qui gagne après un match rocambolesque, comme on dit. Thomas, encore toi, tu voulais nous parler de Marseille dans une très 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 grande forme, une forme olympique. Est-ce que Marseille n'a jamais été aussi proche du titre, Thomas?
Est-ce que c'est l'année ou jamais pour Marseille? Oui, Marseille joue le titre. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, c'est les joueurs eux-mêmes qui le disent. À la fin du match de Toulouse, là, dimanche dernier, Mbemba, on lui a posé la question, est-ce que vous pensez au titre? Il a dit, oui, bien sûr, mais match après match. Bon, match après match, c'est la réponse que tous les joueurs de foot disent. Alors, pourquoi c'est possible? On va pas se mentir, c'est grâce au PSG. Parce que si Paris était bon, on va dire jouer à son niveau normal... Jamais Marseille pourra envisager de gagner le titre. Mais c'est aussi dû au gros niveau de Marseille, qui depuis le début de la saison, d'ailleurs, fait des très gros matchs. D'ailleurs, je voulais faire un petit retour sur l'histoire de la saison de Marseille. Ça commence en été, avec l'arrivée de Tudor et le départ de Sampaoli, avec un été très mouvementé, les supporters d'ailleurs qui étaient dégoûtés de voir Sampaoli partir, à mon avis, et un peu déçus de voir Tudor arriver, parce que, bon, certes, il a entraîné les Las Véron en Serie A, mais personne ne le connaissait non plus énormément. Un mercato, pareil... avec l'arrivée de Sanchez qui est un très bon coup d'ailleurs, parce que même si je pense que pas beaucoup de monde l'imaginait encore à ce niveau-là, je pense qu'il fait sûrement une de ses meilleures saisons de sa carrière. Le début de saison est plutôt bon, avec 9 premiers matchs invaincus, avec certes des petites équipes au début, beaucoup de qualité dans le jeu, une intensité assez folle, des prises de risque avec les latéraux hyper hauts, et Mbemba qui, on se demande s'il joue défenseur ou s'il joue attaquant, en plus avec une qualité technique assez, assez forte. Ensuite, on a une deuxième période de la saison, à partir du match contre Ajaccio, la défaite 1-0 avec un but de Balerdi contre son camp, où là, Marseille enchaîne 4 matchs sans victoire, jusqu'à Strasbourg et le match nul, où ils se font reprendre à la toute fin. Et après, on a un retour en forme avec 2 matchs déclic pour moi. C'est le match contre Lyon, l'Olympico, où ils gagnent à la maison, et le match à l'extérieur avant la trêve de la Coupe du Monde, contre Monaco, où ils gagnent 3-2 avec un but à dernière minute, et l'entrée de Payet qui fait la différence. D'ailleurs, depuis ce match, il n'y a eu qu'une seule défaite, c'est contre Nice au Vélodrome. 4 mois quand même avec une seule défaite, c'est assez fou. Et tout cela fait de l'OM un solide deuxième, 52 points. C'est la première fois dans l'histoire de Marseille qu'à ce stade de la compétition, ils ont 52 points. 5 points derrière le PSG, 48 buts, deuxième meilleure attaque de France. Dans le jeu, on voit clairement la patte Tudor. Hein, on voit d'ailleurs Tudor siffler au premier match de la saison et maintenant adulé. Hein, on voit que le foot va très très vite. On a Vélodrome toujours chaud bouillant. Moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dimanche prochain, tout simplement, pour le petit classique OM-PSG, qui va être un match bouillant et pour moi un match tournant. Parce que pour moi, c'est le match du titre. Oui, déjà, la 25e journée, c'est le match du titre parce que le gagnant peut prendre un ascendant mental assez fou, surtout qu'on connaît les qualités mentales du PSG. Donc, si Marseille gagne, ils reviennent à 2 points. Et je pense qu'ils basculent dans mon côté. Et mon instinct me fait dire que je vois l'OM être champion cette année. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc qui se passe. Il y a le PSG, il y a un truc. Donc, je prends un pari risqué, mais à mon avis, assez raisonnable. Je pense que Marseille va être champion cette année. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Ouais, Jean, tu vois Marseille champion carrément cette année.
On va voir encore. Je prends pas encore le risque, on va dire, de mettre Marseille champion. Mais ouais, mais le match dimanche va être très très important. Oui, c'est le match... C'est le match qui va, c'est le tournant, parce que Marseille au Vélodrome, après la Coupe de France, où ils ont une opportunité pour gagner le titre, ça va être un match de fou furieux. Et puis le PSG à la tête au Bayern un peu, se disent que eux, c'est la Ligue des Champions, le plus important. Mais Marseille, en plus ils ont la Coupe de France, ils peuvent faire une très très belle saison, ils sont en train de faire une très belle saison. Donc voilà, champion, allez, dans quelques journées, on voit.
J'ai oublié de préciser quelque chose, ouais. C'est que dimanche prochain, par contre, il n'y aura pas Mbemba, qui est suspendu. Et il y aura Mbappé. Donc, ça peut faire la différence, mais on ne sait jamais.
Ouais, moi je pense que même si Marseille est très très bon, et même un pari mauvais, je pense que Mbappé peut gagner le titre à lui tout seul, pour Paris. Et que Marseille n'a pas cette profondeur, notamment peut-être en attaque.
Bah, ils ont recruté Vitinha, mais ils jouent pas encore.
Ouais.
On va voir.
À voir. Donc maintenant, on enchaîne avec nos top flops. Donc les top flops de cette 23e journée de Ligue 1. Pour moi, mon top, c'est Monaco. Une belle victoire face au PSG. Monaco qui a un peu éteint le PSG sur ce match. Et mon flop, c'est Lorient qui perd des points précieux qui auraient pu être utiles à Lorient pour éventuellement accrocher l'Europe en fin de saison. Jean, tes top flops de la 23e journée ?
Alors, mon top, c'est Nice qui gagne 3-0 contre Ajaccio. Et puis mon flop, c'est 3 qui coule un peu, là, qui prend 4-0. Et voilà, ça commence à être compliqué pour les Troyens.
Thomas, sur la 23e journée.
Moi, mon top, c'est, on reste à Monaco, c'est Ben Yedder.
Parce
que Ben Yedder, il a fait pour moi un match parfait. D'ailleurs, 2 buts, une passe D, très bon dos au jeu, dans les petits espaces, les appels. Il y a un petit bonus, il a quand même fait danser un peu Marquinhos sur un petit appel, donc ça fait toujours plaisir pour lui. Flop de la 23e journée. Alors là, assez fou, c'est les 10 minutes de Rennes, entre la 27e et la 37e. Contre Toulouse où pendant 10 minutes Rennes a perdu le match, ils prennent 3 buts en 10 minutes dont 2 buts en 1 minute sur l'engagement. Je pense que ça se voit depuis quelques temps maintenant, dès qu'ils prennent le premier but, ils ont toujours un problème. On dirait que dès qu'il y a un grain qui vient dans la machine, il n'y a plus rien qui va, donc mentalement il va falloir qu'ils travaillent un petit peu sur ça.
Jean, tes Des top flops sur la 24e journée.
Alors, moi je reste sur le match de Paris-Lille. Bon, top, ce sera Mbappé. Et mon flop, c'est Benjamin André. Moi, je trouve qu'il a manqué dans cette fin de match. Il ne doit pas faire cette faute sur Messi qui est un peu bête. Et il se fait un peu aspirer par Mbappé sur le troisième but du PSG.
Okay. Moi, mon top de cette journée, c'est Lens, qui montre qu'il faut toujours compter sur cette équipe de Lens. Victoire 3-1 face à Nantes. Je pense que Lens est encore présent et se garantit quand même une place au minimum dans le top 5 pour la fin de la saison. Et mon flop, c'est Lyon. Lyon, donc après une victoire justement contre Lens à la journée d'avant, défaite à Auxerre, 2-1. Bon, rien à dire de plus sur cette défaite lamentable des Lyonnais à Auxerre. Thomas, t'es top flop ?
Eh ben, moi, mon top et mon flop sont dans la même équipe, et c'est le PSG. Alors, mon top, c'est Mbappé, comme Jean. Bah, il a fait un match, franchement, un bon match, enfin un très bon match, même parce que s'il n'est pas là, Paris ne gagne pas. S'il n'est pas le PSG, s'il n'est pas au PSG, je pense que c'est pas le PSG, mais le PFC. son premier but, il est assez fou, le deuxième, il est sympathique aussi. On a vu aussi son âme de leader pendant le match. Ça, c'est une des rares fois qu'on voit ça, mais je trouve ça très intéressant pour la suite. Et mon flop, c'est Messi. Parce que le coup franc ne doit pas venir cacher le néant de son match. D'ailleurs, je me pose la question, il a joué Messi le match ou pas ? Je ne l'ai pas vu, moi, personnellement. Hein. D'ailleurs, Messi, je trouve qu'il représente très bien le slogan de Macron, En Marche. D'ailleurs, il ne fait que marcher sur le terrain.
En forme aujourd'hui, Thomas.
Il ne court pas du tout, et puis... Vous avez remarqué, mais Messi, il crache beaucoup sur un terrain alors qu'il court pas, je comprends pas pourquoi. Encore un match transparent, mais on peut rien dire parce que soi-disant c'est le meilleur joueur du monde, de l'histoire, donc on peut rien dire, mais moi je le dis quand même, Messi est nul depuis qu'il arrive au PSG.
Voilà, on clôture cette page top flop. Vous écoutez le 12e homme sur Radio Campus Pau, votre émission football tous les mardis soirs.
Face, c'est Paris Rhône, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Non.
Et on commence ce tour du monde, enfin ce tour des parcours de nos clubs français en Europe aujourd'hui, avec Jean qui veut nous parler du FC Nantes. Donc un match nul, ouais, historique on peut le dire, à Turin. Un partout, est-ce que Nantes peut faire tomber la Juventus de Turin dans deux semaines ?
Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que à Turin, l'objectif, bon, c'était le grand retour de Nantes en Coupe d'Europe, du match Nantes-Juventus. Et l'objectif des Nantais, il était clair. Défendre le but, en prendre le moins possible, pour essayer au match retour de faire le grand match à la Beaujoire, avec le stade guichet fermé, parce que la tribune noire s'est remise, parce qu'avant elle devait être, à huis clos. Donc, Camboire a dit, on va la jouer un peu à l'italienne, on va faire le dos rond, et on va essayer de voir en contre si ça peut passer. Bah, objectif rempli, je pense que ça marchait 1-1. Première période, il souffre quand même. Le Turin était un peu ami et avec un grand Di Maria. J'ai vu, a mis un peu plus d'intensité, était un peu plus costaud et avec un Di Maria qui faisait bouger un peu tout le monde sur le premier but avec sa petite tête. C'est la tête de Chiesa. C'est Di Maria qui fait le centre, qui remue un peu tout le monde. Et puis après. Il y a eu la chance du petit, les poteaux, cette barre transversale qui revient à la dernière seconde, l'arbitrage vidéo pour une main. Enfin voilà, ils ont eu cette petite chance qui suffit pour les Nantais, pour les petites équipes. Et donc il y a eu un moment il fallait mettre un peu un grain de folie en attaque. Ludovic Blas voulait le mettre en première période, sauf qu'ils y arrivaient pas trop. Et puis il y a eu ce contre avec cette passe magnifique, j'ai trouvé, de Mohamed. Les deux en attaque, ça fonctionne très bien. Et Mohamed qui dévie sur le côté gauche pour Ludovic Blas qui vient loger cette frappe dans la lucarne turinoise. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il va y avoir un match, de toute façon on est reparti à 0-0 avec cette règle du but à l'extérieur qui est sortie. Moi je prône quand même pour le retour du but à l'extérieur, parce que je trouve que ça faisait le charme de ces coupes européennes. Mais donc voilà, on va repartir sur un match à 0-0 et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour les Nantais et que les supporters nantais vont devoir jouer un grand rôle pour leur équipe.
Thomas, triplé de Ludovic Blas au match retour ou pas contre la Juve?
Je sais pas. En tout cas, le match aller, c'était un match intéressant parce que, comme Jean l'a dit, Nantes a mis le bus, mais un bus intelligent, avec un chauffeur très, très intelligent, comme Boiret. La stratégie de contre, elle a marché. Elle marche de plus en plus parce que c'est très compliqué de jouer contre les petites équipes qui ont un bloc bas. On l'a vu avec le Maroc à la Coupe du Monde, c'est très compliqué de venir casser un mur comme ça. Ils ont fait un gros match, beaucoup de chance. Hein. Ouais. J'ai halluciné le poteau barre. Ouais, ça, c'était assez fou. Et puis, j'ai envie de dire bravo à l'arbitre. À la fin du match, parce que je pense que 90% des arbitres auraient sifflé le penalty avec la pression de jouer dans une équipe très très grande, équipe européenne, dans un grand stade. Mais je pense qu'il a porté ce qu'il fallait. Il a sifflé la faute. D'ailleurs, il y avait faute. Donc, bravo l'arbitre, bravo Nantes. Mais la Juve, par contre, va falloir qu'il se bouge un peu parce que s'il gagne pas le match retour l'année prochaine, c'est pas de Coupe d'Europe à mon avis. Donc, attention à la Juve.
Ouais, voilà. Donc, on souhaite bonne chance à Nantes. Pour ce match retour face à la Juventus de Turin. Thomas, tu voulais nous parler du PSG. Une courte défaite donc face au Bayern de Munich. Est-ce que ça reflète vraiment l'état de force entre ces deux équipes? T'y crois, toi, à la qualification du PSG?
Le PSG, c'est mon équipe favorite, comme vous pouvez le voir. Je me posais la question, et j'ai la réponse, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que ce serait pas le pire match du PSG en Ligue des Champions au Parc des Princes depuis l'ère QSI? Je pense que oui. C'est la première fois que le PSG perd son match aller à élimination directe quand il est au Parc, sauf une année contre le Barça. Parce que chaque année, ils font un gros match aller contre le Real l'an dernier. Ils gagnent 1-0, mais ils font un très gros match. Contre Chelsea, en général, ça faisait des gros matchs. Contre le Barça, ils les gagnent 4-0 avant de se faire remonter. Donc là, cette année, on voit que tellement l'équipe est faible, ils n'arrivent même pas à faire un bon match au match aller. Et je pense que c'est le pire match avec la pire équipe de l'histoire du PSG sur l'ère QSI. Il n'y a aucun repère tactique. À force de changer toutes les semaines, les joueurs ils savent pas se placer. Il y a aucune réponse dans l'intensité. Déjà, on le voit en Ligue 1 contre Lens, mais en Ligue des Champions, c'est flagrant. Des individualités qui sont pas au niveau. Marquinhos, cette année, je sais pas où il est. Verratti, franchement, Verratti, je le trouve très très en dessous par rapport à d'habitude. Neymar, bon, j'en parle pas. Messi, pareil, il manque quelque chose dans l'équipe. Il manque simplement un guerrier. Il manque des guerriers. Il y a un guerrier dans l'équipe, c'est Danilo Pereira. C'est le seul qui se bat sur tous les ballons. Et il y en a aussi un deuxième, j'ai oublié, pardon, c'est Ramos. Ramos, il a fait un très bon match là. Pourquoi? Parce que il a mis l'intensité, il a expérience des matchs de Ligue des Champions de toutes les manières. Il a mis le physique, quoi. Il a gagné beaucoup de duels. On pourrait revenir sur le match très longuement, mais je pense qu'il n'y a pas besoin pour voir que le PSG a été assez mauvais. Et on a vu aussi qu'il dépendait, mais alors, à 100% d'Mbappé. Parce que depuis quand il est rentré, il a tout changé en fait. Hein. Même tout le monde, c'est j'ai l'impression que quand Mbappé rentre, tout le monde commence à jouer en fait. Ils attendent qu'il arrive, et quand il arrive, on commence à jouer. Nuno Mendes qui fait l'erreur sur le premier but parce qu'il regarde pas dans son dos qu'il y a Coman. Le but, il est pour lui. Mbappé rentre pendant 20 minutes, il déboule sur le côté, il fait il dépasse, il fait des centres et tout. C'est vraiment, il a joué 20 minutes, mais il a fait très bonnes 20 minutes. Le but de Mbappé hors jeu, très bien. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais dans l'esprit du jeu, il faudrait laisser. Ok, il y a une règle, c'est la règle, il y a le hors-jeu automatique comme à la Coupe du Monde, donc voilà. On s'est plaint des buts hors-jeu pendant 15 ans, maintenant, si c'est pour faire respecter la règle, on ne va pas se plaindre. Le match retour, espoir, point d'interrogation, oui, point d'exclamation. Ça qui est assez fou quand même, c'est que le PSG a l'espoir de remporter le match face au Bayern. Parce que le Bayern n'a gagné que 1-0, ils auraient pu gagner à mon avis 2 ou 3-0. Ça va dépendre d'Mbappé, comme d'habitude. Ça va dépendre de la réussite du Bayern, parce que le Bayern à domicile va avoir énormément d'occasions, ça j'en suis sûr à 100%. Ça va dépendre aussi de Mané. Alors je ne sais pas s'il va jouer, j'ai pas vu son état d'avancement physique, mais si Mané vient, ça va être compliqué. Mais quand même, je dirais que pour moi, le PSG ne passera pas. Mais méfiance quand même, parce qu'avec le PSG, on ne sait jamais.
Jean, est-ce que tu es d'accord avec Thomas? Est-ce que le PSG ne passera pas du tout face au Bayern?
Ouais, ce match était un peu bizarre. Ils n'ont pas joué, je pense, pendant 60 minutes, pareil. Il y a eu une grosse déception parce que il y a eu un tir cadré, je crois, en première période, ou un tir en première période.
Le coup franc.
Ouais, un coup franc. Enfin, un truc, voilà. Et puis, il y a de la frustration parce que j'ai pas senti le Bayern non plus au-dessus, complètement au-dessus. Comme tu l'as dit, ils auraient pu gagner 2-3-0, mais il y avait pas non plus des actions hyper franches. Je sais que Donnarumma en sort une ou deux, mais bon, c'était pas non plus le Bayern, je ne sais pas trouvé énorme. On l'a vu quand Mbappé est rentré. ils étaient un peu dépassés. Pavard, il fait une faute un peu bête sur Messi.
La faute qu'il fait, elle est très très intelligente, moi je pense au contraire, parce que s'il fait pas la faute, il y a but derrière. Je pense c'est, il sait ce qu'il fait d'ailleurs, il sort,
ouais,
il dit rien.
Il est dépassé, non?
Oui, mais il fait exprès de faire la faute justement. Moi je pense que la faute, elle est très très intelligente de Pavard, il sait très bien ce qu'il fait.
Ouais, enfin, il prend un carton rouge quand même. Après, je sais pas si bon. Je pense pas. Je pense qu'ils ont été dépassés en attaque et ils ont un peu pris de la profondeur. Donc Mbappé va arriver. Il va jouer déjà tout le match. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir quand même pour le PSG. Je pense qu'on va peut-être voir même une petite prolongation ou un truc comme ça. Ça va être un match un peu long. La semaine prochaine, je vois un match un peu long. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même de l'espoir avec Mbappé, avec Neymar qui sera peut-être pas là. Donc ça va amener un peu un truc. On va moins jouer sur Neymar, je pense. Et les deux vont moins jouer ensemble avec nous. Non, j'allais dire Nuno Mendes, mais non. Bref, je pense qu'il peut y avoir de l'espoir pour le PSG au Bayern.
Ouais, je te rejoins, je pense qu'il peut y avoir de l'espoir, mais à mon avis, ouais, ça dépend vachement de si Mbappé va nous sortir un grand match ou quoi. Moi, je me souviens de son triplé à Barcelone, c'était quoi, il y a 2 ans, non?
Ouais.
Il y a 2 ans, je pense que s'il sort un match comme ça, même avec un PSG pas très très bien organisé, comme on a vu sur les derniers matchs, il y a la place en tout cas face au Bayern, même si... S'ils nous ressortent le même match qu'au match aller, ça passera
et puis,
pas.
Et puis, le PSG a gagné tous ses matchs à l'aller et après les matchs au retour, ils étaient nuls. Peut-être que là, il peut y avoir un
versement. C'est ce que je me dis, c'est pour ça que j'ai fait.
Ils ont fait exprès,
Il peut y avoir un versement. Là, ils ont été mauvais à l'aller et ils sont bons au retour.
Exactement ce que je me dis. C'est pour ça que je suis assez prudent sur le.
C'est, ouais. Match ouvert. De toute façon, en tous les cas, qu'un seul but marqué par le Bayern. Match ouvert.
On fera les comptes après le match.
Voilà.
Exactement.
Belle phrase.
Donc moi je voulais vous parler de Monaco et de Rennes, donc les deux autres clubs engagés en Coupe d'Europe. Monaco a vécu un match un peu fou, même complètement fou face au Bayer Leverkusen, une victoire 3-2 à la toute dernière minute d'un but d'Axel Disasi. Une option de prise avant le match retour face à Louis II. Monaco semble avoir les armes pour passer, mais attention parce que il y a du monde quand même à Leverkusen et à voir comment Monaco va se débrouiller. Il y avait Rennes, défaite 2-1 face à Donetsk, défaite logique. Rennes n'a pas montré grand chose, va falloir faire beaucoup mieux pour espérer se qualifier. Thomas, qui t'inspire le plus confiance entre Rennes et Monaco pour éventuellement se qualifier?
Alors, c'est compliqué parce que Monaco... je pense que je les vois passer contre les Leverkusen. Ils sont sur une belle dynamique que je pense qu'ils vont passer. Rennes, je sais pas. Alors Rennes, déjà, le match qu'ils font là-bas, il faut dire un truc, c'est honteux.
Ouais, c'est ça, mauvais. Ouais.
C'est honteux de perdre contre une équipe qui joue que des matchs amicaux depuis 3 mois, qui joue pas en plus à domicile parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc, et en plus, tous les joueurs sont partis, tous les joueurs étrangers. Franchement, je trouve que c'est honteux, tout simplement. Le match retour à domicile, je pense qu'ils ont intérêt à gagner parce que. Je pense que s'ils ne gagnent pas, ce serait une des plus grosses déceptions de l'année. J'espère que Genesio il va un peu se remettre en question, que les joueurs vont se remettre en question, que le public va être là, j'espère. Bon, je pense qu'ils vont être là. Mais ça va être compliqué quand même, il va falloir revenir, il va falloir mettre... Je pense qu'il faut marquer très rapidement. Mais Rennes, je vois Rennes passer. En tout cas, je l'espère, j'imagine. En fait, j'arrive pas à imaginer Rennes ne pas passer contre une équipe qui n'a pas joué de match officiel depuis 4 mois. Donc, il faudra voir.
Jean.
Moi, je pense Rennes, ça va être compliqué, mais pareil, ils vont être à domicile, comme tu l'as dit, ils ont pas Donetsk n'est pas non plus
l'équipe qu'ils étaient avant, quoi.
Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Ils ont fait un mauvais match, ils vont peut-être se reprendre, et il faut se reprendre aussi. Ils sont mal aussi en championnat, donc c'est inquiétant quand même pour Rennes, mais je les vois passer. Et Monaco, je... Monaco, j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur pour face à Leverkusen. Je trouve que les Allemands, c'est une équipe assez solide. Ouais. Je sais pas. J'ai un peu peur de la petite surprise à Louis II. Je m'inquiète.
J'ai noté un truc aussi. Alors, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est relié, mais depuis que Karl Poto et Tampi, moi j'appelle comme ça, depuis que Karl Toko et Tampi est arrivé à Rennes, Rennes ne gagne plus. Alors, est-ce qu'il a ramené la poisse lyonnaise avec lui? Je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais.
C'est sûrement fait exprès.
On verra, oui, c'est sûrement fait exprès. Peut-être que Karl nous mettra des jolis buts face à Donetsk au match retour.
Ouais, j'espère. Elle a marqué un au match aller déjà.
Ouais. On verra bien. Donc, mais peut-être qu'on va peut-être se retrouver avec quatre clubs français qualifiés, parce que ça semble impossible pour aucun des quatre clubs français, que ce soit en Europa League ou le PSG en Champions League, en tout cas.
Moi, je mise sur un 2 sur 4.
2 sur 4 ?
Ouais. Monaco-Rennes.
Il y a Nice qui arrive, non ?
Mais Nice, oui, ils sont déjà qualifiés.
Ah oui, pardon.
Déjà qualifiés, ouais. Nice déjà
3 sur 4. Il va y avoir une équipe qui va sauter.
Allez, moi je prends le pari, les 4. Les 4 passes. Ouais, 4 les 4 passes.
On en reparlera.
L'indice UEFA, il va monter. Et
ouais. Ok.
À nous, la 4ème place.
Et on va avoir 4 passes en Ligue des Champions.
Donc, après ce petit tour des clubs français en Coupe d'Europe, c'est Jean qui nous fait le petit point Pau FC aujourd'hui. Comment va notre équipe paloise?
C'est dur pour les Palois. Il y avait un match très important après la défaite contre Bordeaux à domicile. Il y avait un match très important contre Laval, qui était un concurrent pour le maintien. Et défaite 1-0 sur un but contre son camp. Il n'y a pas eu grand chose dans le jeu. C'est assez dommage quand même pour les Palois qui là sont 15e. Saint-Etienne revient fort. Et en plus, le prochain match, c'est à Saint-Etienne. Donc, ça va être un peu compliqué pour les Palois. Et donc, voilà, on espère quand même les prochains matchs. Je ne les vois pas gagner à Saint-Etienne, je pense. Mais
pourquoi pas à Saint-Etienne?
Ah, je ne sais pas. Là, quand on voit Saint-Etienne, je les sens bien, Saint-Etienne. Et puis, petit mot aussi pour les jeunes de Pau,
ouais,
qui sont qualifiés en quart de finale de Gambardella en battant le stade de Plabennec, pardon, ouais. Merci. Plabennec de 2, je crois.
2, hein.
Je suis pas sûr.
Il y a eu le tirage ou pas pour
je
la
suis
suite
pas sûr c'est jeudi le tirage pour la Gambardella. Voilà, donc bravo.
Ouais, bravo aux jeunes palois.
Bravo aux jeunes palois.
Bravo.
Voilà, mais on espère aussi que Pau va se maintenir cette saison et pourquoi pas aller chercher un résultat à Saint-Etienne.
Moi, j'y crois.
Voilà, on verra bien. Donc on se retrouve mardi prochain. Merci à tous d'avoir écouté le 12e homme. Les gros matchs à suivre, les grosses affiches de ce week-end. On a Monaco-Nice, derby azuréen dimanche en fin d'après-midi. Suivi évidemment du classique Marseille-Paris. Donc on en a parlé tout à l'heure. Match capital pour le titre, que ce soit pour Marseille ou pour le PSG.
Ils ont gagné 4-2, les Palois. Je viens de regarder. Ah. Ils ont gagné 4-2.
Voilà.
Pardon pour cette petite erreur journalistique.
Pas de soucis. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.